Frères et sœurs, lorsque l'on lit les évangiles, les quatre évangiles, nous voyons Jésus s'adressant parfois aux foules, les grandes foules, et parfois Jésus avec ce que les évangélistes appellent des disciples, entre autres sept ans de disciples au parasalut. Et parfois, avec ce qu'on appelle les apôtres. Parmi les disciples, il y avait les douze, les apôtres, les plus proches. Et le texte d'aujourd'hui est un de ces textes. Il enseigne les apôtres, les douze. Il s'ouvre, le texte d'aujourd'hui s'ouvre sur une description de l'itinéraire de Jésus. Son ministère public en Galilée est terminé. Et Jésus se dirige vers Jérusalem, évitant volontairement les acclamations populaires issues d'une idée messianique erronée. Marc nous dit qu'il ne voulait pas qu'on le sache. En effet, c'est l'intention de Jésus de rectifier la fausse adulation qui demeure principalement en tant que leader politique ou faiseur d'une partie, et non pas en tant que serviteur souffrant ou le rachat du péché. Et c'est alors que vient son premier enseignement de ce jour, aux douze, aux apôtres. Le Fils de l'homme, dit-il, s'est livré aux mêmes hommes. Ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. Parce que je savais que nous aurions cet enseignement aujourd'hui, j'ai demandé que l'on garde devant l'autel cette belle croix. La composition florale devant la croix qui a été préparée déjà pour dimanche passé. Et nous nous souvenons de la fête de la croix de mardi passé. La croix comme symbole de la mort et surtout de la vie, de la résurrection, reste permanent dans notre vie. Le tueront et trois jours après sa mort, il ressuscitera pour la croix. Après sa mort, c'est la croix. Il reviendra à la vie et c'est la résurrection. Mais pour revenir à notre texte, la réponse des douze des disciples à l'effort patient de Jésus du Maître pour le faire saisir le vrai sens de la mission messianique qui le Messie. Ils ne comprennent pas ces paroles. Ils ont peur de l'interroger. En fait, ils en sont là. Ils préfèrent ne plus poser des questions. Mais, et c'est important, ils ont confiance en Jésus. C'est pour ça qu'ils le suivent. Ils ne comprennent pas, mais ils le suivent. Ici, déjà, nous ne reconnaissons pas une situation dans laquelle nous nous trouvons assez souvent pris comme chrétiens, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais, immédiatement, dans notre prière, nous disons, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, Père miséricordieux, je ne comprends pas. Mais, j'ai confiance en toi. Tout est là. La foi et la confiance vont ensemble. Les douze. Quand Jésus a dit ça, ne comprennent pas, mais ils ont confiance. Et le suivent. Ils ne sont pas disposés à accepter l'élément douloureux de la destinée pascale du Christ. Ils sont incrédules à la promesse de sa résurrection et de sa gloire, d'autant plus que tout se passe bien sur les routes de Galilée et de Jésus est reçu par les foules. La vision étroite est à la page de 16 000 invitations du mystère pascal de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi leur préoccupation personnelle dégénère en question de préséance et de prestige. En fait, derrière cela, derrière l'incident, derrière la discussion des apôtres entre eux, il y a déjà ce qui nous correspond bien. On a vu même aujourd'hui, partout autour de nous, et en nous également, la lutte pour le pouvoir n'est pas la même. Voilà. En chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et voilà. Après cet enseignement solennel de Jésus, ce dont on discutait, c'est de savoir qui est le plus grand parmi eux. Après Jésus, qui est le second? Aussi, arrivé à Capharnaüm, il reste silencieux. Que dit lorsque Jésus leur demande ce qu'ils discutaient en chemin. Il faut dire, il faut comprendre l'expérience, après des mois de ministère en compagnie de Jésus, ils avaient goûté au pouvoir. Ils avaient goûté au prestige qui entourait la personne du maître. Celui qui attirait le monde, qui guérissait, qui était acclamé partout où il passait. Ce qui leur manque, c'est l'humilité. Ce qui leur manque, c'est l'humilité. Et c'est alors que Jésus passe au deuxième enseignement de ce jour. S'étant assis, la belle douce et leur vie. Quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier. Il y a tous le salut de leur vie. Jésus devient beaucoup plus personnel. Et il faut remarquer un détail concernant la postille de Jésus. Il s'assied. Et c'est important en Israël, dans la tradition juive. Le maître, celui qui enseigne, d'autant plus qu'il enseigne avec solennité, avec autorité, qu'il s'assoit. C'est le même Marc, l'évangéliste, qui remarque qu'ailleurs, Jésus parlait avec grande autorité. Dans un passage, Marc ne nous dit même pas ce que Jésus enseigne, mais il remarque qu'il parlait avec autorité et cela frappait les foules. Et ainsi, il parle avec autorité. La position typique des maîtres enseignants en Israël. Et en tant qu'enseignant suprême, Jésus s'assied pour donner une leçon très importante à ses disciples. Pour être au premier rang, il faut être choisi. Le dernier dans l'esprit du monde et le premier dans le service. De réflexion et de méditation où on se trouve. Parce que cet enseignement adressé aux douze, mais bien sûr adressé aux mains également. Alors vient le troisième enseignement de Jésus de ce jour. Pour parler de la vraie grandeur, il a recours à une action symbolique. Et ici, il faut observer la sphère. Comme dit Saint Ignace de Loyola, dans cette question spirituelle, observer comme si l'on était présent. Observer la sphère. Prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et le remit. Il le plaça au milieu d'eux et l'embrassa. Remarquez ici que, remarquez le geste de tendresse de Jésus. L'enfant n'est pas instrumentalisé. L'enfant n'est pas instrumentalisé. Jésus le reçoit avec tendresse, pas comme personne. Il le place au milieu de lui. Un enfant, plus jeune que vous certainement, avec 6-7 ans sans doute, quelque chose comme ça, l'enfant se trouve maintenant au milieu des douze. Et que dit Jésus? Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Celui qui m'accueille, il ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. L'enfant, c'est un enfant de 6 ou 7 ans, que Jésus met au milieu d'eux, est un symbole de la ruine, des pauvres de Yahvé. C'est-à-dire, les humbles de la terre, ceux qui sont sans statut légal et donc insignifiants et sans défense surtout. Dans les anciennes civilisations, y compris la civilisation d'Israël, les enfants n'étaient pas reconnus et pas protégés comme ils le sont aujourd'hui. Aucun droit, aucun privilège porté n'est attribué aux enfants. Il le dit simplement au bas des chaînes, comme des domestiques ou des esclaves. Mais Jésus nous dit, les apôtres, là se trouve la vraie grandeur. Un acte de service et d'amour envers les pauvres et aveugles, comme envers les enfants. L'accueil des plus démunis et l'engagement à leur service est la marque du disciple de Christ. Et Jésus ne s'exprime pas par des paroles, ce n'est même pas un geste symbolique aujourd'hui, non, il n'est pas venu pour être servi, il l'a dit, mais pour servir. Et bien sûr, lorsque l'on se rappelle ces versets de l'Évangile, immédiatement nous vient à l'esprit le geste du lavement des pieds, très présent bien sûr dans notre spiritualité chrétienne. Jésus lavant les pieds de ses apôtres, y compris Judas, celui qui allait le trahir, mais toujours au service de Dieu. Et l'apôtre Paul a bien compris qu'il dit que Jésus s'est vidé et a pris la forme d'un serviteur. Jésus, fils de Dieu, s'est vidé et prend la forme d'un serviteur de l'esclave. C'est des esclaves qui avaient pris des groupes au soleil. Il s'est abaissé, Jésus s'est abaissé, celui dont la place est à la voie du Père. Laisser de prendre dans la nature et nous relever. Et nous revenir de sa nature. C'est par lui qu'il y a quelque chose de divin en nous. Et ce divin en nous est entretenu par la communion à son corps et à son sang que nous avons reçu. Dieu s'oppose aux orgueilleux. De recevoir tout de lui, du Christ,